15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours en direct de 15h à 16h. Il est à mes côtés du lundi au vendredi, c'est le docteur Dimi Mohamed. Bonjour Dimi.
Bonjour Mélanie.
Alors, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier, on va vous apprendre la théorie de la veste. Ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est une théorie créée par notre invitée du jour, Annabelle Roberts. Sa méthode, c'est une méthode un peu contre-intuitive comme ça. L'idée, c'est de vous rendre plus fort, plus sûr de vous, en prenant des vestes, en enchaînant les échecs. Mais l'objectif, c'est surtout de transformer vos échecs en armes pour devenir plus fort, plus productif, plus sûr de vous, elle va tout nous expliquer. Le docteur Dimi Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de l'apnée du sommeil. Une étude vient de prouver une nouvelle fois que perdre un peu de poids, surtout au niveau de la langue, améliore ce trouble. Alors, il nous dira comment on cible la perte de poids linguale. Ça m'intrigue un peu quand même. Hein, vous nous direz tout ça, Dimi. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler d'un petit organe dont on ne parle presque jamais. La rate, savez-vous véritablement à quoi elle sert dans notre organisme? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question des questions sexuelles que peuvent nous poser nos enfants. Parfois gênantes, il faut le dire. Elle nous expliquera comment satisfaire leur curiosité sans leur parler jamais, jamais de notre intimité.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on commence par la première, c'est celle de Patricia qui nous appelle de Grenoble.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelais au sujet de mon enfant qui déteste le poisson, mis à part le poisson pané. J'ai lu pas mal d'articles sur lesquels il disait que c'était quand même pas très bon et que c'était beaucoup de la mauvaise qualité et bourré d'additifs. Donc, je voulais savoir votre avis. Est-ce que, de temps en temps, ça peut être quand même conseillé pour les enfants? Merci.
Dimi, poisson pané. Je vous ai vu saliver au moment où on a dit poisson pané.
C'est vrai. J'ai souvenir d'enfance.
C'est ça, je plaisante. Les enfants, c'est vrai que souvent, ils préfèrent, vous dites souvenir d'enfance, les enfants, ils préfèrent souvent le poisson pané ou poisson qu'on va leur servir entier, enfilé ou autre. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour leur santé ou mauvais, justement?
Alors, on va dire que de temps en temps, un ou deux poissons panés peut ne pas poser de problème, surtout si on alterne avec du vrai poisson. Le problème, c'est pas tant que le fait que ce soit du poisson pané, c'est que bien souvent, c'est des préparations industrielles qui contiennent énormément de choses, en plus de la panure et du poisson.
Mais même du poisson, finalement, je crois qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en a pas toujours tant que ça, hein. C'est ça, c'est le problème.
Et oui, exactement. Penchez-vous un peu sur les emballages, l'étiquette, et vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses supplémentaires. Il y a du poisson, mais on ne sait pas toujours lequel, donc il faut savoir quel morceau vous avez dedans. Et puis surtout, vous avez la mention souvent « préparation à base de ».
En ces cas-là, c'est pas du bon, ça,
exactement
hein.
Préféré 100% filet de colin d'Alaska, par exemple. Dans ces cas-là, vous
c'est
savez
souvent
que vous avez...
du colin, d'ailleurs. Hein.
Exactement. Et vous savez que vous aurez un poisson de meilleure qualité. Et puis, regardez aussi les additifs qu'il peut y avoir en supplément, les sucres, l'arôme rajouté. Plus la liste est longue, et moins c'est bon signe.
Oui, c'est sûr. Alors, il y a quand même des poissons panés, on les voit parfois dans les rayons des supermarchés, qui sont spécial enfants. Vous savez, il y a des mini-machins, mini-trucs, des petits poissons rigolos dessus. On voit qu'ils sont vraiment ciblés pour eux. Si c'est ciblé pour eux, c'est peut-être meilleur, non?
Eh ben non, c'est l'inverse, malheureusement. C'est la CLCV, c'est une association de défense des consommateurs, qui a réalisé une enquête qui montrait que les poissons panés pour enfants étaient de moins bonne qualité nutritionnelle que les poissons panés sensibles.
Ah oui, carrément.
Ils détiennent en moyenne moins de poissons que les autres, 59% contre 65%. Ils sont 10% plus énergétiques, 14% plus gras, 17% plus salés. Et en plus de ça, ils ont une moins bonne note au Nutri-Score. Ils ont 17% à avoir un A contre 53% des produits qui n'auraient pas la mention convient aux enfants.
Bon, très bien. Alors écoutez, je pense qu'on va chercher à plutôt garder les poissons panés qui ne sont pas spéciaux enfants et puis surtout alterner avec des bons poissons. Merci beaucoup, Dimi. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Clara, 33 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie. Bonjour docteur Dimi Mohamed. J'ai une petite question. J'ai toujours des boutons sur le visage au moment de mes règles. Est-ce qu'il y a un soin particulier à faire pour éviter ça? Merci.
Alors Dimi, comment on explique ça? C'est vrai que pas mal de femmes ont des problèmes de peau à l'approche ou au moment de leurs règles. Il y a une explication logique à ça?
Oui, le problème est évidemment hormonal. Lors du cycle, juste après l'ovulation et le pic d'hormones, vous avez une baisse de l'œstrogène et une augmentation progressive des progestérones et de la testostérone. Mmh. Et ces deux hormones sont dites androgènes et elles favorisent la production de sébum et donc une peau plus grasse et donc plus sensible justement à ces petits boutons points noirs qu'on peut avoir au niveau du visage, du dos, le décolleté, finalement un peu partout.
Bon, donc c'est assez fréquent. Bon, c'est encore un des plaisirs d'être une femme, évidemment. Vous n'avez pas ce problème-là, l'effet calculette. Si vous en êtes victime pendant vos règles à tous les coups, on va écouter, on a posé la question à une spécialiste, c'est la dermatologue Nadine Pomarède.
Pour éviter ces petites imperfections qui viennent à répétition après les règles ou aux alentours des règles, on peut utiliser des crèmes particulières qui sont des crèmes qui vont exfolier les couches superficielles de la peau et qui vont permettre d'éviter que le sébum ne s'enquisse et ne provoque ces inflammations. Ça va permettre également de limiter les traces laissées par ces petits boutons qui parfois persistent d'un cycle à l'autre. Ensuite, on peut les masquer, bien sûr, avec des correcteurs de teint qui sont tout à fait utilisables pour et qui sont non comédogènes, non acnégènes et qui peuvent permettre d'améliorer aussi le quotidien de ces patients.
Voilà quelques astuces pour les femmes qui donc ont ces petits problèmes de boutons au moment des menstruations. Alors, autre astuce aussi, Jimmy, je sais que vous me l'avez conseillé en off là tout à l'heure, le masque à l'argile, hein, c'est
ah,
super.
Ah oui, je suis un grand fan.
Voilà, c'est ça, ça assèche, ça assainit. Pourquoi pas utiliser ce petit remède spécial, Jimmy. Merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Clara qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome d'apnée du sommeil et surtout de l'intérêt de la perte de poids pour l'améliorer. Et puis on accueillera aussi notre invitée du jour, Annabelle Roberts, qui va tout nous expliquer sur sa théorie de la veste ou comment enchaîner volontairement les échecs pour mieux réussir dans son boulot, par exemple. Vous allez voir, ce sera passionnant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée Annabelle Roberts, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez du syndrome d'apnée du sommeil et plus particulièrement du fait que si on maigrit, eh bien de la langue surtout, ça on va voir, on réduit son risque d'apnée. Mais d'abord, rappelez-nous quand même un tout petit peu ce que c'est que ce syndrome d'apnée du sommeil.
Bon, pas besoin d'être Dr House pour savoir que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est faire des apnées pendant son sommeil.
Ah, c'est bien,
c'est
bravo.
Le pharynx qui se ferme du fait d'un obstacle qui entraîne un ronflement. Et lorsque cet obstacle est trop important, l'air ne passe plus et on le fait des pauses respiratoires durant 10 à 30 secondes. Au moins 5 fois par heure. Donc parfois, des patients vont faire plus d'une centaine de pauses respiratoires durant la nuit. C'est responsable de micro-réveils, car on reste en apnée. Et puis, il y a un système neurologique réflexe qui se déclenche pour qu'on reprenne la respiration. C'est très fréquent. C'est 8% des gens qui ont entre 20 et 45 ans.
Quand même, oui, c'est vrai. C'est beaucoup.
20% des gens qui ont entre 45 et 65 ans. Et après 65 ans, c'est plus de 30%, donc c'est une maladie qui est très fréquente et surtout sous-diagnostiquée.
Et les conséquences, donc, je crois qu'elles sont surtout cardiovasculaires, celles-là, elles sont quand même connues et donc redoutées. Hein,
exactement, pour le lien est très clairement établi entre maladie cardiovasculaire et apnée du sommeil. Alors, ça va de l'hypertension au trouble du rythme cardiaque, à l'athérosclérose qui est le dépôt de plaques de cholestérol au niveau des artères.
C'est pareil, hein, tout ça quand même, hein, ça fait des grosses conséquences.
De diabète de type 2, risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral et même un risque de mort subite avec un décès prématuré.
Bon, ça a l'air charmant tout ça, Jimmy. L'âge, je crois que ça fait partie des facteurs de risque de développer cette maladie et l'obésité aussi. Hein.
Exactement. Et alors, chez les enfants, on sait que le fait d'avoir de grosses amygdales ou de grosses végétations peut être un obstacle responsable de l'apnée du sommeil. C'est 2% des enfants de 2 à 6 ans.
Il est dans la bouche, dans la gorge. Hein,
exactement.
C'est ça,
mais on sait qu'avoir aussi une mâchoire qui part un peu en arrière, d'où l'intérêt de voir un ORL pour dépister et savoir ce qui se passe. Mais aussi, on sait que l'obésité et notamment le fait d'avoir une grosse langue entraîne l'apnée du sommeil et donc, à contrario, maigrir pourrait être bénéfique pour faire moins d'apnée du sommeil.
Alors, comment c'est possible tout ça?
Alors, c'est une étude où on a pris des patients qui avaient...
Attention, il va vous donner la recette pour maigrir de la langue. Hein. Moi, j'attends alors, avec impatience.
Alors, pas tout à fait, mais c'est une étude où on avait des patients qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil léger à sévère. On leur a fait perdre du poids de deux façons, soit avec un régime intensif, soit en faisant une chirurgie bariatrique, donc un bypass ou une sleeve, peu importe, ils ont perdu 10% de leur poids. Et on a fait des IRM avant et après la perte de poids. Et on s'est rendu compte que plus on perd du poids au niveau de la langue, moins on fait d'apnée du sommeil.
Parce qu'en fait, quand on maigrit de partout,
mais
c'est ça.
Mais sauf qu'ils ont indexé sur la perte de poids au niveau de la langue. Donc c'était un facteur supplémentaire isolé. Ce n'est pas que la perte du poids, parce qu'on pourrait perdre du poids aussi du niveau du ventre, mais ça n'a pas d'impact. Donc maigrir de la langue permet de faire moins d'apnée du sommeil. En revanche, on n'a pas d'explication et de solution pour le moment. On va peut-être axer de nouvelles recherches dessus avec des régimes particulièrement pauvres en gras ou certaines thérapies liées au froid qui pourraient diminuer le volume de la langue et faire moins d'apnée du sommeil. Mmh. Bon, en gros, il faut faire un régime.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de solution ciblée ou alors d'être des glaçons sur la langue, je ne sais pas. On verra,
pourquoi
on en parlera
pas
dans une autre émission. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est Annabelle Roberts, elle est coach en communication et spécialiste de la prise de parole en public. Elle est l'auteur de La théorie de la veste chez Flammarion.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Alors déjà, on le sent, elle est de bonne humeur. Ça fait du bien, hein, Jimmy, quand
c'est
on accueille des invités qui déjà ont un bonjour comme ça, si sympathique. Alors Annabelle, avec vous aujourd'hui, on va apprendre à transformer nos échecs en armes, à devenir plus performants. Vous allez nous expliquer, évidemment, à quoi prendre des vestes au quotidien, ça peut nous rendre plus forts. Mais d'abord, peut-être juste un mot sur la peur de l'échec. Ça, c'est vraiment un sentiment qu'on a tous, hein, de manière générale. À un moment donné, on a peur d'échouer dans quelque chose.
Tout le monde. Et sachez que c'est médical. Il y avait même une étude qui a été faite où ceux qui savaient qu'ils allaient prendre des vestes et allaient se faire rejeter, ils se prononçaient d'avoir moins mal s'ils prenaient une Doliprane une demi-heure avant.
Ah oui, donc c'est presque physique comme
oui,
truc.
Oui, c'est même physique.
Et le problème, c'est qu'on a tous cette paralysie, cette peur de l'échec, mais parce qu'on nous l'apprend depuis l'enfance, c'est ça, depuis tout petit, on est éduqué à ça en fait.
Bah, pensez à ce que vous avez entendu quand vous étiez petit, ne fais pas de vagues, ne fais pas de bruit, pourquoi tu as eu telle note, etc. etc. Et en quelque sorte, c'est normal, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent et dans la vie deviennent les médecins, des avocats. Là, là.
Et montre Jimmy, là, comme ça, vous avez beaucoup de pression, Jimmy, vous.
Votre maman doit être très fière. Donc, mais en fait, on oublie que c'est les erreurs qui nous permettent d'apprendre. Et on oublie que c'est des échecs qui nous permettent de changer notre comportement.
Jimmy ?
Vous êtes né au Canada, ici en France.
On avait un petit peu entendu, ouais, donc ça c'est bien.
Est-ce qu'au Canada, on est moins pessimiste que nous les Français ? Peut-être on a une vision de l'échec un peu particulière ?
Pour certaines choses, oui. Pour certaines choses, non. Moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier que la France, c'est quand même le pays de les grandes maisons couture, d'une création sublime, des films fantastiques, des bouquins fantastiques. Donc, c'est un pays très créatif et on ne peut pas avoir de la créativité sans avoir des échecs et le
mais
rejet.
On est pessimiste un peu plus que
mais,
vous, les Canadiens, peut-être.
Mais, je veux juste comparer les deux discours qu'on puisse avoir à chaque rentrée. Okay. Au Canada, chaque rentrée, la prof, elle va vous accueillir, elle va vous dire « Bienvenue, bienvenue dans ma classe, vous avez tous 20 sur 20, à vous de le garder. » Parce qu'elle estime que, comme on dit en anglais, « innocent until proven guilty », et ici en France, c'est « vous ne pouvez pas avoir 20 sur 20 parce que la perfection n'existe pas ».
Annabelle, merci beaucoup, ça nous donne déjà une petite idée de ce qu'on va dire ensuite. Évidemment, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe donc à la pratique. Notre invité va nous expliquer en quoi consiste sa méthode qui est finalement basée sur l'enchaînement d'échecs qu'on provoque volontairement dans sa vie pour apprendre à encaisser, à se libérer des peurs qui nous paralysent. Vous verrez, grâce à sa méthode, fini la trouille d'aller demander une augmentation que vous méritez, zut, par exemple. On va tout vous expliquer, on vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est Annabelle Roberts, spécialiste de la prise de parole en public. Alors Annabelle, pour comprendre d'où vous vient ce talent pour pousser les autres à se dépasser, à dépasser leurs limites, à réussir, racontez-nous peut-être, parce que je pense qu'il faut comprendre quand même d'où vous venez. Vous êtes née, vous, votre histoire, donc c'est ça que vous nous racontiez. Vous êtes née dans une famille mormone au Canada, hein, c'est ça ?
Exact, l'aînée de 10 enfants. Dans un village complètement paumé. Donc, on faisait 220 km pour rejoindre l'hypermarché le plus proche. Et vous avez l'intérêt d'avoir fait le plein avant parce qu'en plein hiver, c'est possible que vous croisiez personne d'autre, vous tombez en panne, vous pouvez mourir.
Et on ne vous destinait pas vraiment professionnellement à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, on est d'accord. Qu'est-ce que c'était vos perspectives professionnelles éventuelles ?
C'était très, très loin. Pour vous dire la vérité, c'est, les Mormons sont quand même c'est une religion extrêmement conservateur. La femme n'est pas forcément encouragée à beaucoup travailler et surtout de ne pas avoir de carrière. Donc les seules femmes que j'ai jamais vues travailler soit dans une école, soit dans une cantine ou un restaurant. Mmh. Donc moi, tout ce que je savais, c'est que depuis toute petite, je voulais avoir une carrière. Et je ne savais même pas ce que ça veut dire. Je pensais que ça veut dire qu'on a de l'argent pour payer des taxis et que des gens nous écoutent et qu'on travaille dans une grande tour à New York. Voilà. Aujourd'hui, vous me faites travailler dans une grande tour à La Défense, je pense que je pèterai un plomb. Oui.
C'est ça, mais c'est une autre carrière que vous avez eue. Alors, à 13-14 ans, vous avez un peu pété les plombs, si je puis dire. Vous avez pris le pouvoir, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé au sens figuré comme au sens propre ?
vous avez tout brûlé. Hein.
Vraiment, j'ai tout brûlé. Donc, en fait, quand on est mormon, on est obligé de faire des cours de mormonisme tous les matins. On est obligé d'y aller à ce qu'on appelle des activités le jeudi soir pour apprendre à être une bonne femme et une bonne mère. Donc, mon mari, il revient toujours pas que non seulement est-ce que j'ai monté une boîte, créé des emplois, écrit un bouquin. Maintenant, on est en train de produire une émission de télé. Mais je sais aussi faire du point croix, pâtisserie, bricolage, premier secours, abattre une poule, genre tout ce que vous voulez, quoi, parce qu'on n'a pas de valeur chez des mormons si on n'est pas bon à être ménagère. Et j'en pouvais plus, en fait, de ces prospects. J'ai dit non, mais moi je veux une carrière, je suis athée en plus, et ils m'ont dit non. Et ils m'ont interdit tous mes cours et tous mes textes pour avoir des bonnes notes à l'école tant que je n'avais pas complété mes cours de mormonisme. Et donc un jour, pour manifester le fait que j'étais contre ça, j'ai brûlé mes textes sacré devant l'église pendant la messe.
Ça a été un peu loin, là.
mais en quelque sorte, je suis pas une terroriste de mystique, hein, mais c'est juste que c'était le seul moyen que j'avais pour reprendre le pouvoir sur cette situation et montrer aux gens que je ne peux pas choisir la famille dans laquelle je suis née, mais je peux choisir mes actions.
Jimmy ?
Et justement, votre théorie de la veste, elle s'adresse justement à ceux, en vous écoutant, qui se disent « Waouh, j'aurais aimé faire la même chose, mais peut-être que je n'aurais jamais osé ».
Donc, je ne vous conseille pas de brûler quoi que ce soit. Donc, pour qu'on soit clair, pas obligé de mettre le feu.
C'est juste avoir de l'audace. Hein, c'est
pour
ça.
Être l'entendu. Mais tout ce que je voulais dire dans ce bouquin, c'est que je me rends compte qu'on subit plein de situations aujourd'hui dont on n'a pas besoin. On attend que la promotion vienne nous chercher. On attend que
l'augmentation
tombe sur notre tête. J'ai dit, on est dans un contexte social aujourd'hui où on veut juste que ça aille mieux, mais on ne sait pas forcément comment ça peut aller mieux. Et moi, je me suis trouvée dans la même situation il y a 7 ans avant que j'ai lancé ma société, où je savais que je voulais monter une société pour avoir plus d'opportunités. Aussi, je supporte mal un patron, donc ça aide pas trop.
Avec le caractère que vous avez, on imagine bien, effectivement.
Écoutez, il faut tous pour faire un monde. Hein.
Et c'est en montant cette boîte que vous avez créé la théorie de la veste, hein, parce que des vestes, vous en avez pris aussi. Hein.
Et j'en prends tous
toujours.
Les jours. Mon quota de vestes, c'est 3 par jour et 2 le week-end. Donc, tant qu'on n'a pas de clients, on n'a pas d'entreprise, en fait. Et pour trouver ces clients, il fallait que je fasse face à ce qui me faisait peur. Et ça, c'était le rejet. Et appeler quelqu'un, dit ça vous dit de travailler avec moi, il me dit mais non, comment vous avez eu ce numéro, ça me faisait peur.
Et ça, c'est une veste déjà, hein?
Déjà, c'est une veste, mais pourquoi j'ai peur, en fait? Non, ça m'intéresse pas et je raccroche. Il y a aucun nuisance.
Vous avez honte,
à ma
mais
sécurité.
Vous êtes pas morte, quoi.
On est honte, mais on n'est pas morte. Donc, dans les mots de Elton John, I'm still standing, je suis toujours debout. Yeah, yeah, yeah. Donc, c'est un peur irréaliste, en fait.
Annabelle, nous allons évidemment poursuivre cette discussion, surtout vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe vraiment aux choses pratiques, la méthode plus en détail pour se libérer de la peur de l'échec professionnel. La théorie de la veste, c'est la théorie de notre invité. 3 vestes par jour, 3 échecs par jour, c'est son quota. Ça fonctionne même dans la vie sentimentale, vous allez voir, elle nous détaille ça juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, c'est Annabelle Roberts. Elle est coach et spécialiste de la prise de parole en public. Elle est également l'auteur de la théorie de la veste chez Flammarion. Alors Annabelle, aujourd'hui vous nous dites, vous en plus sur votre théorie, celle que vous avez inventée, donc celle des vestes. Pour démarrer, vous expliquez dans votre bouquin qu'il faut en fait établir son quota de vestes. Vous avez dit que pour vous, personnellement, c'est 3 vestes par jour, par la semaine, et puis
deux
le week-end, voilà. Mais comment on établit son propre quota? J'en ai peut-être besoin de plus que vous, de vestes, moi, ou Jimmy, il en a besoin de beaucoup, peut-être, je ne sais pas.
Bah, journaliste, c'est quand même un métier de veste. Hein.
Ouais, ça c'est clair.
J'imagine que vous avez des invités que vous avez envie, vient ici dans votre studio, et
ils
qui, vous, voilà, qui vous envoient un vent. Ouais. Mais l'intérêt d'un quota de vestes, en fait, c'est très simple, c'est un principe psychologique de base. Quelqu'un qui a une phobie, quelqu'un qui a peur de quelque chose, la remède, entre guillemets, c'est de s'exposer à ce chose dont il vous fait peur. Et si vous avez peur de se faire rejeter, si vous avez envie de demander à Anne-Sophie de la compta de boire un verre avec vous, donc dans un premier temps, attention à hashtag MeToo, mais dans un deuxième temps, vous dites non, je peux pas, et si jamais elle me dit non, bah, le quota de veste, c'est pour vous. Donc le quota de veste, c'est une manière d'abord d'apprendre à votre cœur et à votre cerveau que la honte ne tue pas, que le rejet ne tue pas, et de développer ce que j'appelle la muscle de la loose. D'accord. Donc, se faire rejeter, c'est désagréable pour tout le monde. Pour tout le monde, que vous soyez Beyoncé ou que vous soyez n'importe qui, c'est désagréable pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit dont c'est désagréable et devenir performant là-dedans. Okay. Donc, c'est jamais une question de ne plus sentir de honte, c'est une question de devenir confortable avec la honte.
Jimmy ?
Du coup, cette honte, c'est peut-être plus facile de la travailler avec des gens proches, des copains, des amis, que directement son
patron. Vous voulez que
je sois
votre copine de loose, Jimmy ? Allez, on est copains de loose.
C'est
allez,
plus
d'accord.
Simple avec quelqu'un avec
mais on puisse être une famille de la loose ensemble, tous ensemble en studio. Mais ça dépend, Jimmy, pour répondre à votre question. Avec les proches, ok. Mais aussi avec les gens qu'on ne va plus jamais revoir de notre vie. Donc moi, par exemple, chaque fois que je suis au restaurant, je demande que le monsieur m'offre le café. Et souvent, il me regarde et me dit...
Ben non.
Et c'est super parce que j'ai rempli un tiers de mon quota de veste pour la journée, j'ai musclé ma muscle de la loose et...
Et puis parfois ça marche.
Bah, une fois sur six, il m'offre le café. Donc je lui donne toujours le prix du café en pourboire parce que je ne suis pas une radine non plus, vous voyez. Mais c'est... En fait, on se rend compte qu'en pratiquant un quota de veste, il y a des raisons pour pratiquer la quota de la veste. Un, muscler la muscle de la loose. Deux, se rendre compte que la honte ne tue pas, ça vous rend plus fort. Et trois, au début... Comme on n'a tellement pas l'habitude de cet état d'esprit, 50% de ce que vous étiez sûr sera une veste est en fait une opportunité.
Inspiré, Jimmy.
Mais oui, parce que j'ai honte toujours de demander. Je me dis, et ma femme me dit, mais on s'en fiche. Au pire, on dit non et c'est pas grave.
Elle fait la théorie de la
veste. Exactement,
mais sans
s'en rendre compte. Moi, je me dis, non, je vais tétaniser, je vais mourir de honte, mais vous avez raison. On les reverra
donc,
plus jamais.
Il va demander tous les cafés gratuits maintenant, Jimmy.
Mais ce que vous allez faire, Jimmy, c'est que vous allez demander, même si ça vous fait flipper, ok. Et qu'est-ce qui se passe si vous dites non ? Un, vous allez devenir performant dans ce sentiment de honte. Deux, vous êtes performant, vous pouvez vous féliciter parce que vous êtes en train de remplir votre quota. C'est la définition de la performance.
Et ces copains de la loose qu'on doit trouver, cette famille de la loose, ils servent à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces copains de loose, par
exemple ?
Donc,
deuxième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste, la première chose, c'est qu'il faut avoir une quota de veste. Le deuxième, c'est qu'il faut avoir sa copine ou son copain de la loose. Pourquoi ? Parce que, soyons honnêtes, se prendre des vestes, ça fait quand même toujours mal.
Ah oui.
Et donc, la copine de la loose, selon la manifeste de la loose qu'on puisse trouver dans le bouquin, a comme devoir solennel, je pense que c'est un mot
solennel,
en français.
C'est ça, exactement.
Okay, parfois je m'étonne. De vous féliciter dans votre loose. Donc imaginez que Jimmy, je sais, qui est auteur publié, il veut pitcher son prochain bouquin à son éditeur. Mais il flippe, machin, il discute avec sa femme qui est sa copine de la loose, j'ai l'impression.
Ouais, je crois qu'ils sont déjà sans savoir copain de loose avec
bah,
son
c'est
épouse.
Bien. Et donc, il pitch à son éditeur. Son éditeur dit « Jimmy, on t'adore, mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Tu reviens, machin. » Là, il a pris une grosse belle veste de compète.
Et sa femme en prend du bravo,
t'es un champion. Et la copine de la loose, elle va dire « Jimmy, t'es vraiment la meilleure des losers. T'es non seulement le loser le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie, mais t'es vraiment efficace. » Parce que ça, c'est de la veste de compète. Veste royale. Okay. Et donc, on est tous en train de rire ici. Comment on peut faire autre chose que rire ? Et là, quelque chose qui nous faisait mal avant, ça nous fait rire. On change notre relation avec le rejet.
Et la veste, la théorie de la veste est basée aussi sur l'auto-embarras. Vous dites que ça fait du bien de se ridiculiser un petit peu. Ça va ensemble. De toute façon, en général, quand on prend une veste, on se ridiculise en public, mais sans non plus ruiner complètement sa réputation au travail. Par exemple, ça peut être quoi l'auto-embarras ?
Donc, la troisième chose qu'il faut faire pour pratiquer la théorie de la veste et la dernière chose, c'est de pratiquer le auto-embarras. Pourquoi ? Parce que c'est Eleanor Roosevelt qui a dit que personne ne peut vous faire sentir inférieur tant que vous donnez votre consentement.
Mmh.
Et moi, j'ai envie de vous dire que, deux, que vous êtes confortable avec le auto-ridicule, personne peut vous faire sentir ridicule. L'autre jour, j'étais à l'antenne avec une journaliste et elle m'a dit « Non, mais vous vous protégez quand même contre des vestes avec beaucoup d'humeur, etc. C'est pas tout le monde qui a des intelligences de communication comme vous. » J'ai dit « En quelque sorte, vous vous protégez avec, avec le ridicule. » Et j'ai dit « Non, madame, je baigne dedans. » Et donc...
Au travail, ça peut être quoi l'auto-embarras, par exemple ?
Alors, je vous explique comment se auto-embarrasser ou pratiquer l'auto-embarras dans sa famille ou avec ses collègues. Il suffit de générer le ridicule dans un environnement contrôlé et complètement sécurisé. D'accord ? Donc nous, quand on cherche quelque chose pour se auto-ridiculiser à l'agence, c'est quelque chose, donc il y a un cadre. Et un bon exemple, c'est le yoga du rire. Moi, je suis certifiée yogi du rire de le docteur Kataria en Inde. Mm-hmm. Certification officielle, etc. Et nous, on aime le yoga du rire. Pourquoi ? Parce que c'est rire sans raison. C'est complètement ridicule. Mmh. Okay, complètement ridicule. Vous avez vraiment de l'air très con quand vous le faites. Okay, mais si quelqu'un me dit après, mais qu'est-ce que vous faites ? Je dis, ah, mais je pratique le yoga du rire qui était inventé par un médecin en Inde et qui est pratiqué dans 27 pays partout dans le monde.
C'est ça.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Sérieux.
Okay, une autre chose qu'on fait, par exemple, c'est qu'on prend le métro en slip. Okay.
Ah, mais Jimmy, allez en consultation en slip, non peut-être ?
Jamais la vie. Là, non, là, je suis désolée, là. L'expérience s'arrête là. Jimmy, c'était très bien jusque-là. Mais...
Jimmy, je vous ajoute à notre mailing list. Hein. Et donc... Et, mais pas n'importe quel jour, parce que si vous le faites, vous êtes un pervers. Mais on prend. Et Dieu sait qu'il y en a assez de ça dans le métro. Hein. Mais on prend le métro en slip le jour de métro en slip. Ce qui veut dire que c'est encadré.
Il n'y a pas de journée du slip
bien sûr,
dans le métro.
Mais bien sûr, c'était en janvier.
Ah, je ne savais pas.
Et oui, c'était plutôt là.
D'accord.
Et c'est pratiqué dans plein de villes partout dans le monde, à New York, à Los Angeles, Paris, Londres, Toronto, partout dans le monde. Et c'est le cadre. Et vous n'êtes pas seul à le faire. Et ça vous permet de générer ce sentiment de je suis pas bien et arriver à être performant là-dedans quand même.
À le supporter. Vous dites quand même que tout ça, ça doit toujours rester mignon, hein, parce qu'il faut pas non plus se ruiner au travail, arriver en slip, ça fait tâche quand même. Hein.
Exact. Il faut absolument garder en tête ce qu'on appelle la paramètre mignon. Okay. La paramètre mignon, c'est quand Jimmy fait sa tentative de veste pour pitcher son deuxième bouquin à son éditeur, s'il dit « j'ai une super idée, c'est XYZ, voilà, on va le publier ». Il n'y a aucune sincérité dans sa demande, il n'y a aucune humilité, il n'y a aucun... Il n'a pas réfléchi, il n'a pas considéré l'autre.
Et vous prend toujours un exemple, hein, Jimmy, vous avez vu.
Et il prend cher aujourd'hui. C'est après les boutons, c'est... Donc, mais en fait, une tentative de veste ne doit jamais, jamais nuire à votre réputation. Donc, imaginez qu'on veut demander à Anne-Sophie de la Conta de boire un café avec nous. Si on envoie un SMS, genre, ouais, dispo après le travail, winky smiley, ou je sais pas où, emoji aubergine ou whatever.
Mais non, ça, c'est pas très mignon. Hein.
Non, c'est pas mignon, mais s'il dit, Anne-Sophie, je sais que ça se fait pas sur le lieu de travail, mais...
J'adorerais aller prendre un petit café avec toi.
Depuis que je travaille ici, j'apprécie tellement votre personnalité, votre sourire et votre sincérité.
Là, c'est mignon.
Voilà.
C'est okay. Comme ça qu'il faut
c'est
faire.
Et si on est comme ça...
Donc ça marche sentimentalement aussi, la théorie des vestes. Hein,
mais pour, bien sûr, hein, c'est comme tout. Un petit peu de sincérité et ça va mieux.
Merci beaucoup Annabelle Roberts d'être venue sur notre plateau nous détailler votre méthode pour réussir, pour en finir avec les peurs qui nous paralysent. Je rappelle le titre de votre livre, La théorie des vestes chez Flammarion. Europe 1. Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un organe dont on ne parle presque jamais. On va tout vous dire sur la rate, à quoi elle sert, est-elle vraiment indispensable ? À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un organe mal connu, la rate. Savez-vous déjà où elle se situe et bien sûr quelle est son utilité dans notre organisme ? Peut-on vraiment vivre sans rate ? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, voir ce que vous saviez sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est pas vers l'estomac, le foie, les reins là ? Par là, là ?
Soit en bas à droite, soit en bas à gauche.
Entre le bassin et les poumons, de ce côté-là.
Près de l'estomac ? Mais alors, je sais même pas à quoi ça sert.
Je ne sais plus si ça sert pour la production d'éléments tels que enzymes, hormones, etc. Ou si, au contraire, ça sert plutôt comme organe de nettoyage tel que, par exemple, le rein. enfin les reins.
Enfin, moi je connais la rate parce que c'est une variété de pommes de terre en fait, la pomme de terre rate.
Ah oui, on peut retirer la rate, on vit sans rate.
J'imagine que la rate c'est vital parce que déjà je me dis qu'on en a qu'une seule.
Non mais j'ai une méconnaissance, la non-culture, je sais pas.
Mais je sais que c'est un organe vital comme le pancréas, le foie, tout ça, ça va réguler le corps.
Il me semble qu'on peut s'en passer, ça t'aide à digérer correctement.
Je pense que c'est inconnu pour beaucoup de monde en fait, on en parle peu.
Alors c'est vrai Jimmy, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui, on en parle peu de la rate. Alors on a entendu un monsieur qui parlait des pommes de terre rate, ça n'a rien à voir. On parle de la rate qui est dans notre ventre, hein, parce que c'est un organe... Alors il y a plein d'expressions qui parlent de la rate, ça je m'en souviens. On dit avoir la rate qui se dilate, la rate au courbouillon, courir comme un dératé. Mais en fait on sait souvent même pas où elle est la rate. Elle
c'est
est
vrai,
Jimmy.
C'est pas sexy la rate, ouais, ça intéresse pas grand monde. Et pourtant c'est un organe qui est situé dans la cavité abdominale, sous les côtes à gauche. Et donc il est bien caché pour être protégé,
c'est
notamment
bien
des chocs.
Profond dans le ventre.
Il pèse environ 200 grammes, 12 cm sur 8, donc c'est quand même assez gros.
C'est pas si petit que ça.
C'est très vascularisé et c'est de nombreuses fonctions dont on ignore souvent les origines.
Alors justement, à quoi ça sert? Vous dites de nombreuses fonctions, il y en a tant que ça?
Alors c'est un organe du système immunitaire essentiellement et qui a un rôle notamment dans la maturation des cellules qui luttent contre l'infection et essentiellement les lymphocytes.
Les globules blancs, c'est ça?
Alors c'est un dérivé des globules blancs, c'est la famille des globules. Exactement.
Mais...
Et ils servent aussi à la destruction des globules rouges lorsqu'ils ont circulé plus de 120 jours. C'est en quelque sorte le cimetière des globules rouges et ça a un rôle évidemment important dans les infections et lorsqu'on n'a plus de rate. On est un peu plus fragile.
Et donc tout ça, justement, tout ce qu'on vous a dit, fonction avec des cellules sanguines, etc., ça a quand même l'air assez important. Donc ça a l'air précieux pour l'organisme, la rate, et vous dites qu'on peut l'enlever
Oui, dans deux situations. Le plus fréquemment, c'est lorsqu'il y a un accident de la voie publique et qu'on a un accident de voiture, par exemple, et la rate peut se rompre. Et lorsque la rate se rompt, c'est une hémorragie qui peut être cataclysmique et qui peut conduire au décès. Donc on essaie parfois de l'emboliser, d'essayer de limiter le saignement, mais parfois il faut la retirer. Ouais. Et puis il y a certaines maladies.
Et l'ablation de la rate, c'est la splénectomie. Je voulais avoir l'air intelligente.
La splénectomie. Et parfois, lorsqu'on a une maladie du sang, une hémopathie ou une tumeur ou un lymphome, il faut l'enlever dans la moitié des cas.
Mais alors, vu tout ce qu'elle est capable de faire, cette rate, ça doit être quand même compliqué de vivre sans, non?
Non, finalement, parce qu'on fait très attention. On sait que le risque principal lorsqu'on n'a plus de rate, c'est le risque infection. On a dit que c'était un rôle dans le système immunitaire. Et donc, on sait que dans 1% des cas, on va faire une complication infectieuse, c'est-à-dire attraper une bactérie qu'on peut tous avoir, mais responsable de 50% des décès à ce moment-là. On meurt plus lorsqu'on a une infection sévère sans rate. Et donc, on donne des antibiotiques au long cours, c'est-à-dire pendant 2 ans qui suit l'intervention lorsqu'on est un adulte, 5 ans lorsqu'on est un enfant, et puis on vaccine contre 3 bactéries, le pneumocoque, l'hémophilus et un vaccin de la méningite. Les deux derniers, on le fait classiquement. Et donc, le pneumocoque, c'est un vaccin supplémentaire pour éviter justement de développer des infections plus graves.
Et très rapidement, je crois que les gens qui vivent sans rate, ils ont une carte, ils doivent porter une carte qui signale qu'ils n'ont pas de rate.
Exactement, qui doivent être pris en charge si jamais il se passe quelque chose. Les personnels soignants seront au courant. De la même façon que vous avez une carte, si vous êtes diabétique, vous portez un pacemaker, c'est de la précaution et les gens le savent très bien.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. Pour cet éclairage, on a appris plein de choses grâce à vous, encore une fois.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ces questions sexuelles justement que peuvent nous poser nos enfants. Parfois gênantes, elle nous expliquera comment satisfaire leur curiosité sans parler jamais de notre intimité. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, vous allez répondre à une question d'une maman. C'est Hélène qui nous a écrit pour nous rapporter en fait la question que lui a posée son fils de 10 ans. Je vous la lis. Bonjour Catherine, mon fils de 10 ans pose pas mal de questions ces derniers temps autour de la sexualité. Et la dernière en date, c'est de me demander si son père et moi avions encore l'âge de faire l'amour. Si oui, quand était la dernière fois? C'est précis. Hein. Et si la prochaine fois, je pouvais le prévenir pour qu'il regarde et apprenne comment on fait? Alors, j'ai pas su quoi lui répondre. Catherine, qu'aurais-je dû faire selon vous? Alors, Catherine, le fils d'Hélène, il a l'air bien curieux quand même. Hein. Alors, c'est pas un peu tôt, 10 ans, pour poser toutes ces questions déjà?
Alors, c'est pas tellement que ce soit tôt, parce que c'est plutôt encore que les enfants posent des questions. Mais c'est un moment, normalement, où l'enfant met sa pudeur à l'œuvre et donc évite ce partage, même si, évidemment, le questionnement est tout aussi important qu'il l'était depuis l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, où c'est très agissant et exhibitionniste. Quand je dis exhibitionniste, même dans le verbe, et voyeuriste, etc. Alors qu'à compter de 6 ans, normalement, l'enfant refoule tout ça et n'ose pas l'aborder avec le parent.
Lui, apparemment, il aborde, hein, il n'a pas peur, il pose la question, il demande même s'il peut regarder. Oui, ça veut dire qu'il est un peu obsédé ou un truc
comme ça.
En tout cas qu'il... C'est inquiétant ou pas d'ailleurs ?
Alors, inquiétant, non, c'est en tout cas remarquable suffisamment pour pouvoir recadrer l'enfant. Il a besoin de ça. Et heureusement que les enfants font des choses comme ça, parce que ça serait quoi le job des parents ? C'est pas simplement les nourrir, c'est aussi de les faire grandir, les faire réfléchir aussi, et les faire réfléchir sur le fait qu'on ne mélange pas tout. Et en l'occurrence, il pose des questions parce que c'est une façon pour de dire à sa maman qu'il est préoccupé, que le sujet de la sexualité, de sa sexualité à venir est un sujet. Donc c'est sur ce point-là que la maman doit répondre.
Et ça c'est vrai, il a le droit d'avoir ce sujet-là, cet enfant.
Ouais. Absolument, donc qu'est-ce qui te préoccupe ? Pourquoi tu es inquiet ? Qu'est-ce que tu voudrais savoir faire ? Tu sais que tu as quand même que 10 ans. Il va te rester encore du temps, tu vas grandir, et c'est normal que du haut de tes 10 ans, ce soit compliqué de t'imaginer faire l'amour. Ça c'est une chose. Mais l'autre question, qui est de le dire à sa maman et vouloir y participer, c'est déjà c'est ne nier le fait qu'il y a un environnement, qui est l'environnement parental, duquel l'enfant n'a pas lieu de participer. Et du coup, ce qui veut dire qu'il est quand même très préoccupé par sa maman, très préoccupé par ce que son papa fait à sa maman, et éventuellement s'il pourrait y avoir une place pour lui. Ce qui est important, c'est évidemment de le renvoyer à sa chambre et ses fantasmes.
Jimmy.
Et justement, comment on fait pour lui répondre, sans lui répondre, puisque je pense qu'il faut quand même lui donner quelques éléments, mais sans dévoiler son intimité ?
Je crois qu'il faut tout simplement dire que l'intimité, en effet, la sexualité d'un papa et d'une maman, c'est de l'intimité, de même que quand lui fera l'amour, ça ne regardera que lui et la personne avec qui il le fera, et que donc, à ce titre, une maman n'a pas à répondre à cette question. Papa et maman s'aiment, papa et maman vont bien, merci de t'en être préoccupé, mais ce que papa et maman font, comment ils le font, à quel rythme ils le font, ça ne regarde que papa et maman.
Donc on ne dit pas ni oui ni non, on ne dit pas oui, papa et maman font encore l'amour ou non, ils ne le font plus.
Ça, on peut lui dire, non, peut-être quand
même. On peut répondre, on peut dire oui, on nous arrive de...
De faire l'amour.
Non, c'est bizarre. Non, c'est vrai
si,
que c'est...
si, on peut dire oui, les papas et les mamans, ça fait l'amour, bien sûr, parce que évidemment que l'enfant, l'idée lui plaît sans trop lui
parce
plaire.
Là, il demande, est-ce que vous avez encore l'âge de faire l'amour à ses parents, apparemment, la question, c'est
encore
ça.
Encore l'âge, il faut pouvoir dire, oui, on fait l'amour parce que c'est toi qui ne l'as pas. Je te signale.
Toi, tu n'as pas l'âge, par contre.
Nous avons l'âge de le faire, toi, pas du tout.
Voilà. Et le fait qu'ils demandent de regarder, c'est pas un peu bizarre ? Ou ça, est-ce que c'est pas peut-être justement, aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude d'avoir des tutos pour tout, qu'il y a aussi un côté, après tout, on a des tutos pour apprendre à faire ci, à faire ça.
Oui, puis ils sont confrontés.
Pourquoi vous ne me feriez pas un tuto en direct, quoi ? C'est un peu ça.
Et puis ils sont confrontés à la pornographie. Quand je dis pornographie, pas nécessairement les
films porno.
Les films porno, mais en tout cas le discours pornographique, parce que le discours de la sexualité, de l'apprentissage de tout. Alors avant, évidemment, ça se faisait déjà, c'est pas une nouveauté, mais ça se faisait en général par écrit, pas nécessairement en film, en vidéo, etc. Et les enfants aujourd'hui ont des tutos pour tout, en effet, vous avez raison. Donc il faut dire que ça, il n'y a pas de tuto, parce que de toute façon, ça se crée. Et même avec deux petites copines qu'il aura, il ne fera pas les mêmes choses. Et que donc, ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de modèle à suivre, ce qui permet à la maman d'introduire le sujet de la pornographie en disant que même la pornographie n'est pas
un tuto.
Un tuto.
Très bien, Jimmy.
Et justement, comment le rassurer ? Est-ce qu'on l'oriente vers des ouvrages ? Est-ce qu'il y a des livres peut-être qui pourraient lui expliquer certaines choses ou on lui écoute, t'es trop petit, 10 ans, laisse-toi le temps de grandir ?
Il y a des livres qui sont adaptés à chaque âge. Donc, bien sûr qu'une maman peut, et un papa peuvent aller chercher ce qui est proposé pour cet âge-là. Mais on n'est pas obligé. Enfin, si l'enfant, si la préoccupation du comment ça se fait est claire, il faut lui donner à ce moment-là matière à répondre à son interrogation. Mais peut-être que ce n'est pas tant la préoccupation de comment on le fait que la préoccupation de ce qui se passe entre papa et maman, auquel cas il faut réétirer le temps et les livres n'ont pas nécessairement lieu d'être.
Et être un peu ferme, parce qu'on est d'accord, ce qui se passe entre papa et maman, ça ne le regardera jamais, on est d'accord.
Absolument.
Donc là, au bout d'un moment, si l'enfant insiste, il faut être ferme et lui dire écoute, ça ne te regarde pas, ça.
Oui, très très important, ça serait plus destructeur qu'autre chose, bien évidemment.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Demain, dans ce rendez-vous, on va parler de vieillissement, mais surtout de bien vieillir. Et vous verrez que pour rester, pour devenir un peu plus vieux, en restant en bonne santé le plus longtemps possible, en fait, ça commence dès 40 ans. On va tout vous expliquer.